Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, podcast France Télévisions. Aujourd'hui, les amis, on parle des familles nombreuses. Non pas des familles avec 3 enfants ou 4 enfants, non. Des vraies familles nombreuses, des familles très nombreuses. On va recevoir dans un instant Julie. Julie qui est la maman de 7 enfants. Vous imaginez-vous, 7 enfants. Oh oui, ça en fait des lave-vaisselle qui fonctionnent. Oh oui, ça en fait des machines à laver qui tournent. On va entendre Julie, son organisation, son bonheur, mais aussi ses coups de fatigue, vous vous en doutez. Puis nous serons avec une psy pour analyser tout ça. Olivia Farkas, c'est parti.
Alors, il y a 8 millions de familles en France et parmi ces 8 millions de familles françaises, moins de 500 000 sont composées de 4 enfants ou plus. Bonjour Julie.
Bonjour Agathe.
Julie, vous êtes une héroïne, hein, je vous le dis, l'héroïne du quotidien, 38 ans, maman de 7 enfants. Ils sont âgés de 16 à 3 mois. Bon, on va tous les nommer quand même. Hein.
On va tous
comme
les
ça,
nommer.
Ils sont devant leur télé où ils nous regarderont en replay.
Alors, ils sont devant la télé en train de regarder maman.
Bon, alors, on salue Jeanne-Marie, l'aînée, qui a 16 ans, le seul garçon de la fratrie, Léopold, qui doit se sentir un peu seul quand même.
Le grand courageux.
Ouais, grand courageux, 14 ans. Giuliana, 8 ans. Lily Rose, 6 ans. Myrtille, 4 ans. Madeleine, 2 ans. Et Giovanna, la petite dernière, qui a donc 3 mois. Et c'est la première fois que vous quittez vos enfants depuis leur naissance pour
tout
venir témoigner. Donc merci beaucoup.
Mais merci à vous
d'être là. Vous êtes en couple avec Guy, Julie, depuis 18 ans. Est-ce que déjà, quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez ce projet de faire une famille nombreuse?
Mais alors, pas du tout. Très honnêtement, pas du tout. Moi, j'adorais partir voyager pour mon travail. Vraiment, avec Guy, c'était pas du tout dans nos projets. Mmh. Voilà.
Et vous avez une maman qui était quand même très maman poule. Donc,
alors, moi,
un beau modèle.
J'ai un modèle extraordinaire. Je dois tout à ma maman. Ce côté maman poule, elle m'a donné des valeurs extraordinaires. Et c'est à elle que je dois tout aujourd'hui. Quoi. Voilà.
Alors, au début, vous avez eu le choix du roi, parce que vous avez donc Jeanne-Marie. Et puis, 2 ans plus tard, donc, votre seul garçon, Léopold. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire déjà un petit troisième et puis après les suivants?
Eh bien, un drame dans notre vie. Un jour, un grave accident de voiture avec Léopold que j'ai failli perdre. Ça a basculé ma vie. Et là, tout a changé pour moi. Des grosses angoisses. Donc, avec Guy, on décide de se marier quelques mois plus tard. Et arrive parmi nous Giuliana.
Qu'est-ce que ça... C'était quoi le déclic de cet accident? C'était comme si, tout à coup, vous compreniez quelle était, votre mission de vie, votre
c'est
place.
C'est ça, tout à fait, tout à fait. Pour moi, ça a tout remis en place. C'était eux pour toujours. Et ça a tout remis en place, vraiment.
C'est-à-dire
ça
que vous avez dit, en fait, c'est la famille qui compte. Tout le reste n'est qu'accessoire.
C'est ça.
Comment se sont déroulées vos grossesses et vos accouchements? Parce que vous avez scoré, hein, c'est tous les 2 ans. Hein.
À part les 2 premiers. Alors, j'ai eu la chance... Alors, cet enfant, c'est très beau, hein, voilà. Mais on a eu aussi beaucoup de difficultés à les avoir, ces 7 enfants. Oui. Avec Guy, malheureusement, on a fait 8 fausses couches, on a perdu 8 bébés.
8 fausses couches.
Oui, ça a été très dur psychologiquement. Chaque grossesse, c'est un vrai combat. La première, ma Jeannou, une lettre à la poste, la péri, l'accouchement rêvé. Et les autres, c'est à peine le temps d'arriver à la mat, ils étaient déjà là. Donc la péri, je l'ai oubliée depuis bien longtemps. Depuis Jeannou, je l'ai oubliée.
Ah bah, puisque j'ai quelqu'un qui a vécu donc, les 2 en face de moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez trouvé que les suites de couches sans péridurale étaient plus faciles qu'avec péridurale?
Beaucoup plus facile.
Ouais, c'est ça.
Beaucoup plus facile. J'étais debout 5 minutes après. Beaucoup, beaucoup plus facile.
Donc ça, pour toutes les femmes qui se posent la question, les accouchements sans péri, les accouchements en physio, généralement postpartum un peu plus agréable.
Bien sûr.
Bon, ce n'est pas une règle absolue, je crois, mais quand même. Alors c'est vrai, Julie, quand on pense à une famille nombreuse, immédiatement on se dit, voilà, les tâches ménagères. Moi déjà, quand je vois Yasmine avec sa famille recomposée, 1 semaine sur 2, Marie avec ses 4 enfants, je me dis, comment fait-elle? Mais vous, c'est 9 repas que vous avez à faire. Alors, et en plus, j'ai l'impression que vous ne faites pas les mêmes repas pour tout le monde.
Alors non, parce que j'ai un mari formidable qui a décidé que c'était flunch tous les soirs à la maison. Donc lui, tous les soirs, Il veut faire plaisir à ses enfants et donc fait un repas différent par enfant.
Et donc il y a vraiment 9 dîners différents.
Mais voilà, c'est quand je vous dis flunch, c'est flunch à volonté. C'est tout le monde demande ce qu'il veut et papa fait. Voilà.
Chariot de dessert.
Ah non, mais j'ai un mari extraordinaire. Il adore cuisiner. Alors pour faire plaisir à ses enfants, il ferait n'importe quoi. Donc et puis le repas du soir pour nous, c'est un moment très important parce que c'est le seul moment où on se retrouve vraiment tous ensemble. Et donc on adore. Voilà, on manquerait ça pour rien au monde. Donc on se retrouve tous ensemble. Et tout le monde se raconte sa journée.
Alors, bon, ça, vous décrivez un truc totalement idyllique. En plus, c'est votre mari qui s'occupe de tout, le rêve. 9 dîners, pas un enfant qui râle, parce qu'il y en a un qui a demandé ses pâtes, il les a, l'autre ses frites, il les a, c'est fantastique. Après, il y a les tâches ménagères, quand même. Les lessives, le ménage et tout ça, comment vous vous organisez?
Alors, nous, c'est... Il faut une organisation top, sinon on ne s'en sort pas.
Organisation militaire?
C'est militaire.
C'est militaire. Alors,
c'est-à-dire
vous
que alors, la tâche la plus lourde, on ne va pas se mentir, c'est le linge. Je pense, ouais. Comme toutes les mamans, je pense. Sauf que nous, on tourne à 20 machines par semaine. Donc la buanderie, chez nous, c'est une pièce à part entière où chaque enfant a son pack à linge avec son nom.
Ah oui.
Et quand tout sort du sèche-linge, je répartis tout dans les bacs à linge jusqu'au repassage du week-end. Comme ça, si dans la semaine, ils ont besoin de quelque chose, ils vont piocher.
Voilà. Ah ouais, c'est pas mal.
Voilà.
Bon, et en plus, vous avez des ados, donc j'imagine que Jeanne-Marie, vous êtes un petit peu...
J'ai une ado formidable, une aînée formidable sur qui je peux entièrement me reposer. C'est vraiment un amour. Et puis, les deux ados savent entièrement s'occuper des petites. C'est-à-dire que les couches, les biberons, ils gèrent super bien. Juste, on ne veut pas que ce soit une obligation pour eux. Donc, il faut que ça reste un plaisir. Voilà. Mais je peux toujours me reposer sur eux. Ça, c'est vraiment... J'ai une chance incroyable.
Ça, c'est génial.
J'ai une chance incroyable.
Comment est-ce que vous arrivez à passer du temps précieux avec chacun de vos enfants? Parce qu'on a déjà du mal quand on en a deux.
Alors, pour nous, c'est une vraie priorité. C'est une vraie priorité que chacun trouve sa place dans la fratrie. Donc, ça passe déjà par les devoirs. C'est-à-dire que Guy et moi, on se concentre sur... On prend une fille chacune, parce que pour l'instant, on n'en a que deux qui ont des devoirs. Les grands se débrouillent tout seuls. On leur consacre ce moment-là. Et puis après, Guy, lui, c'est atelier cuisine le week-end. C'est, voilà, donc ça, les filles adorent, c'est le moment à ne pas louper de la semaine. C'est l'atelier cuisine avec papa. Et moi, ça va plus passer par tout ce qui est shopping avec mes petites nénettes. Hein, voilà, on va se mentir. Je leur apprends aussi beaucoup l'espagnol parce qu'on prépare, notre avenir. Et notre grand rêve, c'est quand Guy est à la retraite, de partir en road trip. Donc, je leur apprends l'espagnol pour qu'on puisse préparer ce beau voyage ensemble.
Mais quand vous dites road trip, c'est-à-dire long ?
C'est-à-dire qu'on vend tout et on s'en va dès que Guy est à la retraite.
Ah oui,
et
c'est pas un road trip avec retour.
Il n'y aura pas de retour. On partira et voilà. Donc, on prépare ça avec les enfants. Voilà. Donc, sauf nos deux ados qui, je pense, auront déjà, veulent rester faire des études, ont déjà prévu. Oui. Mais pour le reste, elles sont prêtes et on prépare ça. Par des petites choses ludiques, mais voilà, c'est notre grand rêve. C'est notre grand rêve.
Justement, vous parliez des ados qui auront très certainement leur vie avec quand même de gros écarts d'âge. Pardon, parce que Jeanne-Marie, 16 ans, la petite dernière Giovanna, 3 mois. Oui. Il y a des clans dans la fratrie? Comment
ça
se passe?
Oui, oui. Oui, on a deux ados déjà qui ont un étage pour eux tout seuls à la maison, donc ça rapproche forcément. Ils en profitent bien. Et puis, ils sont très complices. Ils partagent beaucoup de passion. Donc, ils ont fait du patinage en compétition tous les deux. Ils sont très sport aquatique. Ils adorent tout ce qui a trait au Japon, au manga. Ils font des conventions tous les deux. Donc,
ah oui, donc ils ont les mêmes passions.
Ils ont vraiment les mêmes passions. On a aussi... On a une relation magique qui s'est créée entre Jeanne-Marie et Madeleine, donc notre petite Maddy, parce qu'elle a appris à marcher avec Jeanne pendant le confinement. Et Jeannou, c'est toute sa vie. Donc, quand il faut que c'est Jeannou qui rentre de l'école, c'est... voilà.
Mais attends, Julie, là, vous êtes quand même en train de me faire une description idéale. Il y a quand même... Ça pète quand même de temps en temps.
Ça pète de temps en temps.
Parce que moi, j'ai bien... Hier soir encore, mes enfants, j'ai dû les séparer de pièces pendant 2 heures. Et quand ils sont retrouvés au dîner, c'est comme s'ils s'étaient retrouvés au même moment de la dispute d'il y a 2 heures. Donc, comment est-ce que vous faites?
Alors, moi, j'essaye de ne pas crier. Parce qu'on est tellement... Je me dis... On commence à crier, on ne va pas s'en sortir. Donc, quand vraiment ça va trop loin, tout le monde dans sa chambre et je ne veux plus rien entendre. Donc, tout le monde dans sa chambre, on essaye de désamorcer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah on punit, on est comme tous les parents. Hein, voilà. On a la chance que généralement ça marche. Voilà. Et puis ils ont tous un petit surnom dans la maison, personne ne s'appelle par son prénom. Et ils savent que quand on prononce le vrai prénom, c'est que là ils ont été trop loin et qu'il faut se calmer.
Voilà. Voilà. Quand c'est plus Juju, c'est Julie, là on sait que
là,
ça rigole pas.
On se dit, ça y est, ça rigole plus.
Quand maman, c'est pas Jeannot, c'est Jeanne-Marie, quoi,
voilà.
C'est ça.
La maman ne rigole plus, on va trop loin, voilà.
Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça a transmis comme valeur à vos enfants, le fait d'être une famille nombreuse ?
Pour moi, toutes les valeurs du monde. Toutes les valeurs du monde. Pour moi, déjà, le partage, hein, ça c'est sûr. La patience, ce qu'il faut attendre, c'est chacun son tour, hein, voilà, c'est la patience, c'est l'esprit de. On apprend à vivre le vivre ensemble aussi, hein, qui n'est pas toujours évident.
Mmh. Oui, c'est
pas
ça
toujours
qui est
évident,
difficile.
Parce qu'en plus, il y a, comme vous le disiez, des écarts d'âge, donc c'est pas
mais
évident.
Mais vous, en tant que femme, et votre couple aussi, est-ce que vous arrivez quand même à trouver des moments à deux ou des moments pour vous toute seule ?
Alors, à deux, non. À deux, non, parce que on n'aime pas sortir que tous les deux. Pour nous, c'est tous ensemble ou rien.
D'accord.
Voilà, donc pour nous, on n'ira jamais se faire un petit resto à deux parce que, alors, on a quand même notre famille qui essaye une fois par an de nous, justement, de nous l'offrir quand même pour qu'on le fasse. Mais sinon, moi, en tant que femme, je m'accorde quand même, enfin, j'essaye, une fois par semaine, c'est mon moment magique, c'est le coiffeur, pour me détendre, pour me détendre, j'en ai besoin. Et puis, je consacre aussi du temps à ma page Instagram. J'ai la chance d'être invitée par des marques, donc c'est vrai que voilà, ça change un petit peu de mon rôle de maman exclusivement, et ça me fait du bien. Puis j'ai envie qu'ils soient fiers de moi aussi, qu'ils soient fiers de leur maman.
Olivia Farkas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Quels sont ces êtres très étranges ? Quelles sont les motivations de ces gens qui décident de faire des familles nombreuses? Dites-moi tout.
Peut-être ça a un rapport avec le désir d'enfant qui se construit depuis déjà tout petit pour chacun de manière inconsciente et consciente, à la fois sur un plan plus narcissique et puis plus oedipien dans le rapport à ses propres parents, à sa propre famille, au modèle qu'on a pu avoir. Votre question.
Mais c'était qu'est-ce qui les motive
qu'est-ce
en fait
qu'est-ce
motive que c'est pas, parce que
est-ce
eux,
que c'est
fait
de comprendre
famille.
En fait
est-ce que
je
c'est pas oui alors Julie elle nous donne déjà un petit peu un exemple, on voit qu'il y a quand même eu une histoire assez traumatique après deux enfants, donc peut-être à explorer de ce côté-là.
Elle s'est dit la famille c'est très important, donc
là
on
il
va,
y a quelque chose peut-être voilà et... de la mort qui a été frôlée comme ça, et donc cette vie avec beaucoup d'enfants qui vient remplir la maison, qui vient rassurer. Après ça peut être un modèle en effet qu'on a vécu soi-même et qu'on a envie de reproduire parce qu'on est fait de ce modèle-là, ou au contraire, ce modèle qu'on peut avoir vécu...
Ou un moment qu'on est fille unique.
Exactement,
unique,
voilà, l'inverse. Penser, ouais. Quand on est enfant unique, de ne pas vivre cette solitude peut-être qui a été ressentie, donc proposer autre chose à ses propres enfants. Bon, c'est aussi un désir commun de couple, hein, j'espère, aujourd'hui.
Ou alors avoir une famille recomposée.
Oui, mais c'est encore différent, ça. Ça, c'est différent, la famille recomposée. Elle se construit sur cette recomposition, bien sûr. Voilà. Oui. Je pense que ça n'a rien à voir avec une histoire vraiment d'un couple qui devient parent et qui ne se suffit pas, mais je crois qu'on en parle après encore, trois enfants.
Oui, c'est ça.
Alors justement, les enfants, comment ils vivent tout ça ? On a reçu une question en vidéo pour vous, de Guy, regardez. Mm-hmm.
Bonjour, j'aimerais savoir comment les enfants réussissent à trouver leur place dans la fratrie.
Pour certains, c'est compliqué, hein, parce que ça fait quand même en effet des grandes tablées, du bruit, du monde, les parents qui peuvent être accaparés par les uns les autres, certains qui demandent plus d'attention que d'autres. Donc comment ils trouvent leur place ? Certains y arrivent bien, ils sont assez à l'aise, d'autres vont avoir besoin de... peut-être se distancier un petit peu, d'être un peu plus en retrait, d'aller chez les autres, d'aller... On voit des adolescents, par exemple, qui souhaitent être en internat pour être plus tranquille, pour travailler, pour être un peu en retrait. Je crois qu'il faut accepter qu'à un moment, chacun prenne son petit vélo, aille sur sa petite route à lui et revienne aussi, parce que c'est pas forcément... ça implique pas forcément une rupture. Mais parfois, ça peut être un peu lourd, oui. Ça fait des charges, ça fait des... c'est bruyant, une grande famille.
C'est pas forcément, même dans les familles où il y a deux, trois enfants, il peut y avoir aussi des problèmes de place.
Et... Là, ça fait peut-être encore davantage.
Oui, c'est ça.
Parce que là, on voit bien, entre 16 ans et 3 mois, il y a... Enfin, ça différencie, la question de la génération aussi est différente. Il y a les aînés deviennent des adultes quand les plus jeunes sont encore des bébés ou des enfants. Ça. Donc ça fait des places qui ne sont pas si simples. Confier la charge des plus jeunes aux aînés, c'est coûteux aussi pour certains aînés. Certains
vont
trouver
leur place.
Mais
c'est la fête tous les soirs. C'est ce que disait Julie. C'est sûr que là, on ne s'ennuie pas. C'est voilà, le verre à moitié plein.
C'est bien de s'ennuyer aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'adore m'ennuyer.
Le petit jeune homme a parlé d'imaginaire tout à l'heure. Ouais. On sait que l'imaginaire, il vient aussi quand on s'ennuie un peu. Ouais.
C'est vrai. Margot vous demande, est-ce que la famille nombreuse permet aux enfants de s'initier à plusieurs rôles, d'acquérir certaines compétences, certaines qualités?
Oui, certainement encore davantage que dans n'importe quelle fratrie. On a parlé des aînés qui peuvent s'occuper des plus jeunes. On entend aussi parfois... En thérapie, j'entends des adultes qui me disent, ayant été l'aînée d'une très grande fratrie, j'ai une femme qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps,
évidemment.
J'ai pas eu d'adolescence parce que finalement, à 11-12 ans, j'étais déjà presque une petite maman pour les derniers enfants. Donc, c'est des charges qui sont... Bon, c'est peut-être leur laisser surtout une place d'enfant. Je crois que c'est ça qui est important. C'est leur permettre de rester des enfants dans la famille et pas être un peu comme ça.
Mais c'est pas possible quand on en a 7.
Peut-être qu'il y en a qui y arrivent.
Ouais. Alors écrivez-nous.
Oui. Non, mais j'imagine que si, en étant très attentif. Ouais.
Alors justement, Constance vous dit, je suis à la tête d'une grande famille, j'aimerais savoir comment nouer des relations singulières avec chacun de mes enfants. Est-ce que c'est possible, ça, d'accorder du temps en duo, maman-enfant, parent-enfant avec...
Ça dépend certainement des moyens matériels, psychiques aussi des parents. De leur envie aussi, hein, parce qu'on voit un petit peu, quand on regarde un peu ces reportages sur les familles très nombreuses, on voit toujours un peu comme ça, un effet presque un peu de meute, comme ça, tous les enfants sont ensemble tout le temps, il faut que les bains soient à la même heure, il faut que... Bon, là, c'est autre chose qu'on attend justement dans ce moment-là, et comment permettre que peut-être un jour, il y en a un qui a besoin d'un déjeuner tout seul avec le père, la mère, les deux parents, un petit voyage, des petits espaces comme ça, un petit peu extraits de la globalité de la famille et de cette grande famille.
Comment expliquer le regard social souvent négatif sur les familles nombreuses, vous demande Pauline. On a un peu l'image des groseilles dans La vie est un enfant.
Groseilles, oui, ça ramène un milieu social qui n'a pas forcément choisi, dans l'exemple que d'avoir autant d'enfants. Aujourd'hui, avec la contraception, quand même, on peut imaginer que pour beaucoup de ces familles, c'est un vrai choix, quand même. Hein.
Est-ce que le regard il est toujours aussi négatif?
Il y a une part de ça, parce que ça ramène à cette époque où on n'avait pas le choix, où en effet, un peu
ces familles... Il y a aussi quand même beaucoup de familles très religieuses. Non, moi,
c'est une autre référence.
Les Lequenois, voilà.
Oui.
C'est très cliché, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de...
C'est assez cliché, oui, mais ces clichés-là nous renvoient à ces projections-là.
Et Julie, par exemple, c'était vraiment voulu. Et voilà.
Rien à voir avec la religion, en plus.
Il y a certains catholiques pratiquants qui ne prennent pas de contraception.
Toutes les religions, d'ailleurs.
Un enfant par classe de primaire, de la petite section au CM2. J'en connais une.
Ah oui. Alors du coup, on se demande, comment ça se passe quand tous les enfants sont partis et qu'on se retrouve en couple?
Eh bien, justement, c'est peut-être en avoir comme ça un certain nombre, une grande, grande fratrie, ça permet de repousser ce moment le plus loin possible. Donc, on peut peut-être imaginer qu'à un moment, le couple sera content de se retrouver couple et non plus parents, plus à la maison en tout cas, de se retrouver, mais comment ça va se passer?
Ça se prépare
peut-être. C'est une autre question, peut-être ça se prépare. Après, c'est vrai que c'est d'autant reporté que... on gagne peut-être au moins 15 ans. Je ne sais pas si on reprend l'exemple de Julie tout à l'heure. C'est sûr qu'avant que les petits derniers s'en aillent, aujourd'hui, on dit que les enfants partent plus tard en plus. Donc, ça prolonge. Là, elle parlait de la retraite de son mari. Donc, ça veut dire passer de parents à plein temps très engagés dans le quotidien d'une très grande famille à tout d'un coup, la retraite, ça peut interroger, oui. Mais peut-être c'est une bonne chose.
Monique a une question, Marie, vous allez peut-être pouvoir répondre aussi. Quel conseil pouvez-vous donner pour la répartition des tâches dans la famille nombreuse?
Allez-y.
Donc on parle de répartition des tâches, mais au sens propre, quoi.
Ouais.
Tout le monde se tâche.
Non, mais alors que là, vous, quatre enfants, est-ce que chacun sait ce qu'il a à faire? Est-ce que chacun fait un peu de tout?
Moi, après, je fonctionne en équipe. C'est-à-dire que depuis leur naissance, je leur ai martelé qu'on n'est pas à leur service et qu'on est tous une équipe. Et si on veut que ça fonctionne, comme dans toutes les équipes, il faut que chacun y mette du sien selon ses capacités. Donc après, voilà, il n'y a pas de tour de table, comme on a pu le voir là chez Julie, mais parce qu'ils sont sept, c'est quand même différent. chacun, celui qui est disponible le fait. S'il faut passer la suite, c'est la même chose. Et personne rechigne dans la mesure où c'est imposé à personne, en fait. Mais après, voilà.
C'est surtout que c'est dans les mœurs de la famille depuis toujours, en fait. C'est ça.
Ouais, on a essayé, ça n'a pas marché. Hein. On est obligé d'imposer. Et ils en sont encore à dire « Non, c'est moi qui... » Des ados, je parle. Ouais. « Non, c'est moi qui l'ai fait. Bah, c'est toi qui l'ai fait. » Bon, c'est... On fait ce qu'on peut, quoi.
C'est l'enjeu de la fratrie, de la place de chacun. Et
mais c'est ce qui fait la richesse de la famille aussi.
Oui.
Elle n'a pas l'air d'accord.
Alors, Florence vous dit « Comment gérer les conflits quand on a déjà tellement de choses à gérer à la maison ?»
Bah, c'est ça, ça prend beaucoup de place, hein, toute cette gestion. On parle beaucoup de logistique, d'organisation, de plus de machines à laver que finalement de temps partagé dans un lien qui se construit. Donc, il n'y a peut-être pas de miracle, mais laisser chacun pouvoir être un peu différencié. Quoi. On revient souvent à cette question-là, c'est comment est-ce qu'un enfant peut trouver sa place d'enfant dans cette grande fratrie, dans cette grande famille, et comment les parents arrivent à les percevoir comme différents et pas être complètement envahis par cette organisation. Donc,
Est-ce qu'on ne doit pas lâcher prise sur certains conflits si on ne veut pas passer sa vie à gérer des conflits? Enfin, on parle de chamaillerie, mais ça peut peut-être aller plus loin
mais
que ça.
Mais peut-être ces conflits, c'est aussi le moyen d'attirer l'attention sur chacun des enfants parce qu'il y a d'autres problématiques et que le conflit, c'est le moyen d'être dans le lien à l'autre, de s'assurer qu'il est là, d'aller
convoquer. Mais alors, globalement, un conflit entre enfants, on intervient en tant que parent ou pas?
Bah, oui, on les laisse régler. En tant que parent.
S'il n'y a pas de violence, moi, j'interviens.
Après, on peut mettre des mots dessus. Ça, c'est mettre des mots, intervenir, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas de reprendre, d'essayer de comprendre, de pouvoir leur permettre de s'écouter, de, intervenir, c'est pas une punition, mais c'est de pouvoir réaliser ce qui fait qu'à ce moment-là, peut-être, qu'est-ce qui se cristallise sur un conflit qui, souvent, n'a pas grand-chose à voir avec ce qui est vécu intérieurement par, notamment, les enfants qui se chamaillent, quoi.
Moi, je leur ai appris la notion de compromis, ça marche pas mal. Donc, j'en dis, vous essayez de, vous devez chacun lâcher sur une chose, alors donc je les entends. Trouve un compromis. Non ! Si, tu trouveras un compromis. Il n'y a pas de compromis. Si, moi, je te donne ça. Bon, d'accord, je te donne ça. Terminé. Je les laisse gérer comme ça.
Je crois que je reconnais celui qui dit pas de compromis.
Oui, c'est marrant. Hein.
Ah, c'est bizarre.
C'est toujours le même. Faut-il que je l'aime ?
Clémence vous demande, c'est plus difficile d'avoir une vie sociale et de partir dans des lieux de vacances collectifs. Du coup, auriez-vous des astuces pour compenser?
Bah oui, parce que
la vie sociale.
La vie sociale, il y a déjà une vie très, très, là on disait tout à l'heure, très bruyante déjà dans la famille. Bah, une vie sociale, c'est peut-être, déjà ça dépend de la famille autour. Parfois, il y a des grands-parents qui peuvent être présents, des familles un peu élargies qui peuvent aussi prendre certains enfants à des moments.
Pas hésiter à demander à se faire
aider. Voilà, demander un petit peu d'aide, finalement, comme là encore, un peu comme dans n'importe quelle, pour n'importe quelle famille. Mais en tout cas, pas massivement vouloir confier cet enfant d'un coup à des grands-parents. Je pense que là, les grands-parents, ils paniquent. Mais peut-être les grands, peut-être les petits à des moments, pour justement pouvoir faire des petits voyages, des petits moments, encore une fois, différenciés avec certains, où on se retrouve sans priver pour autant... une autre partie de la fratrie. C'est-à-dire que c'est forcément plus compliqué.
Marie, vous qui avez une vie sociale débordante,
vous
êtes sur le dance floor régulièrement et tout.
Ouais.
Non, vous faites comment? Vous avez des babysitters? Vous sortez en famille?
On sort souvent en famille, mais les enfants sont un peu plus grands. Et alors nous, on n'a jamais réussi à faire ça, par exemple, à les différencier en se disant on emmène les deux garçons faire ci, les deux filles faire ça. On a toujours de la peine pour les autres. Donc on préfère ne pas faire ou faire attendre un peu plus et faire tous ensemble. Et ça, je pense que c'est, encore une fois, comment on vit la famille nombreuse. Et encore, moi, je ne suis pas 7 enfants. Donc, probablement que... Mais c'est vrai que... C'est pas évident, mais à un moment, ça ne dure qu'un temps aussi. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire. Enfin, sauf quand on étale dans le temps très longtemps.
Et non,
on
peut vite refaire.
Voilà, c'est ça.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'il faut aussi faire comme on le sent. J'ai pas eu l'impression que Julie avait envie de se séparer de ses enfants, en tout cas pas pour le moment, et qu'elle préfère vivre des moments en famille que de. Donc, voilà, ça dépend aussi des couples, probablement.
Bien sûr.
Justement, le couple. Delphine nous dit « Nous sommes 7 à la maison, j'ai du mal à lâcher mes enfants. C'est donc difficile d'avoir des moments seuls avec mon mari. J'ai peur que mon couple en pâtisse, que dois-je faire ?»
Bah, si elle a l'air d'en avoir un petit peu envie, peut-être pouvoir quand même organiser quelque chose de ce côté-là. Et puis, en parler avec son conjoint, son mari, et de se préserver des petits espaces. Ça peut être aussi le soir, une fois que chacun est couché, se retrouver à deux, le temps des parents. Ça peut être ça, ça peut être en effet se pouvoir avoir une babysitter ou sortir boire un verre.
Merci à Olivia Farkas, merci à Julie d'avoir accepté de raconter son histoire qui, j'en suis sûr, a intéressé beaucoup de monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain à l'antenne sur France 2, 9h30, sur les réseaux sociaux quand vous voulez, en podcast, même la nuit. Ciao tout le monde, à demain.